Hébreux 13, 1. Donc, j'aimerais appuyer, comme on l'a fait depuis plusieurs semaines, sur la vision de l'Église. Et puis, prendre chacun des termes et les mettre en valeur. Alors, Hébreux 13, 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Donc Jésus, on va s'intéresser à lui, il est à la fois apôtre et souverain sacrificateur. Et c'est ces deux mots-là que j'aimerais qu'on développe en relation avec la vision de l'Église. Alors je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, on va la redire, il faut que ça rentre. Et c'est être, ça commence par être, c'est pas faire, hein, c'est être. Être une communauté. Ça parle de famille, on a plusieurs cultes sur ça, communauté. Puis on a à apprendre encore, hein, communauté, d'adorateur, ça c'est bien. Serviteur, ça c'est autre chose encore, hein, adorateur et serviteur. Disciple de Jésus, tout un programme, hein, qui œuvre, tiens donc, il y a des choses à faire, il y a œuvrer, ben oui, œuvrer à la manifestation du royaume de Dieu dans le monde. Dans la culture, en premier lieu le domaine de l'enseignement, l'éducation, mais aussi dans tous les domaines de la société. Donc, je vais mettre en rapport ce verset, cette caractéristique de Jésus, qui est à la fois apôtre et sacrificateur. Dans une église et dans le corps de Christ, il y a vraiment deux grands mouvements, il y a deux courants, il y a deux grands courants, très complémentaires. Et on le discerne très bien, les uns les autres, et peut-être vous allez vous trouver dans un de ces deux-là. Et parfois ils s'opposent, mais ils ne devraient pas s'opposer. Il y a les ministères qui disent « Venez à la maison de Dieu, venez à la maison de Dieu. Hein, » c'est le « Venez au Seigneur, venez dans sa présence, venez l'adorer. » C'est le « Venez. » Et puis vous avez les ministères qui sont plus « Allez, il faut sortir. Allez, go, dans le monde. Il faut influencer. Qu'est-ce qu'on fait là? On bouge pas. » C'est ces deux. Et dans la Bible, on trouve les deux commandements. On trouve même un peu plus de commandements « Venez. » que aller. Mais les deux sont importants. Donc il y a deux courants, il y a deux directions inscrites par le Saint-Esprit, le vient et le va. Et c'est normal car l'appel de Dieu, il a des orientations parfois prioritaires, mais ces orientations sont toujours complémentaires. Dans Hébreux 3, qu'est-ce qu'on trouve chez Jésus? Il est à la fois l'apôtre. Apôtre, ça veut dire envoyé. Alors, il est envoyé dans le monde, dehors, voyez, et à la fois, il est sacrificateur, c'est relation avec Dieu. En fait, la croix qu'on a ici, ce n'est pas seulement le rappel d'un événement historique, mais la croix, c'est un paradigme, c'est-à-dire c'est un principe de Dieu, de fonctionnement. Donc, la verticalité, sacrificateur, apôtre, horizontalité, tu es envoyé vers les autres. Et j'aimerais faire une parenthèse, c'est la différence de la louange entre les temps de louange dans l'église quand on est en culte et les temps de louange quand on est en maison de prière. En maison de prière, c'est la dimension verticalité. Et un culte, on doit travailler les deux dimensions. C'est un corps entier qui loue et qui célèbre le Seigneur. Alors, l'apôtre, Jésus l'apôtre, il est envoyé par Dieu parmi les hommes. Et ça, s'il est un modèle pour nous, ça veut dire que nous aussi, on est appelé à ça. Et j'aimerais quand même rappeler que on croit que l'Église du Seigneur, elle est apostolique. Donc être apostolique, ça veut dire le sens de l'envoi. Donc Jésus lui-même, il est l'apôtre. Il est venu pour accomplir une mission. Il est ambassadeur. En fait, qu'est-ce qu'il fait Jésus en tant qu'apôtre? Il représente Dieu devant les hommes. Ça, c'est le côté ambassadeur, voyez. Et chacun ici, quand on sort d'un culte, quand on rentre le lundi, on est ambassadeur de Dieu devant les hommes. Il y a un côté envoyé. Et ça, c'est très important. Donc, représenter Dieu devant les hommes. Mais Jésus n'est pas qu'un ambassadeur. Et c'est ça, il est un souverain sacrificateur. Et ce côté souverain sacrificateur, c'est ce que nous sommes, on l'a vu en début de ce culte, on est des sacrificateurs quand on loue, etc. Le sacrificateur, il a cette tendance, et c'est juste, à venir à part, à se mettre à part. Alors, ce n'est pas pour rester à part, mais c'est pour mieux aller après. On ne peut pas aller dans le monde si on a le même goût que le monde. Et pour avoir le goût de Dieu, on est obligé de se mettre à part. C'est comme avec le peuple d'Israël. Dieu lui dit, je vais faire de toi une nation qui va toucher toutes les nations. Tu es en Égypte, eh ben, tu vas commencer par sortir. Alors il y aurait des gens qui se scandaliseraient avec cette histoire. En disant, mais qu'est-ce que fait Israël en dehors? Il doit toucher l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il sort d'Égypte? Il est complètement... Il n'a rien compris. Mais il est nécessaire de sortir d'Égypte pour penser autrement, avoir d'autres façons de voir et ensuite rentrer dans l'héritage que Dieu a pour nous. Donc la sacrificature, c'est quoi? C'est représenter les hommes devant Dieu. Donc l'apôtre, il représente Dieu devant les hommes et le sacrificateur, il représente les hommes devant Dieu. Quand on a prié pour le pays, la France, etc., c'est le rôle de sacrificateur. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on vit ça? Il se passe que Jésus, le sacrificateur, il vit en nous et il intercède au travers de nous. C'est ça, en fait, prier. C'est ça. Hein, c'est le laisser prier lui. Ça, c'est le top. C'est bien de prier nous. Mais il y a un moment où on voudrait faire les prières que lui, il fait. Et ça, c'est la prière aussi, vous voyez. Donc, il représente Dieu. Il représente les hommes devant Dieu et il représente Dieu devant les hommes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souverain sacrificateur, apôtre, il y a un va-et-vient, toujours. Il y a un va-et-vient. Entre quoi? Entre le ciel et la terre. Alors, Dieu ne nous veut pas figer, vous voyez. Il nous veut en action, dans ce va-et-vient, comme lui. Comme lui. On a été créé pour être adorateur, un, deux, envoyé dans le monde avec une mission. Quelle est ta mission? Ben, ta mission, tu la trouves dans l'adoration. Hein? Dans la présence de Dieu, tu trouves ta mission. Le pourquoi tu vis sur cette terre. Vous savez, quand on a vécu ces tragédies cette semaine, ce crash d'avion, etc., on se dit, à tout moment, quelque part, à tout moment, on peut être pris. Hein? Et la question est à se poser maintenant, en se disant, Seigneur, la mission que tu as pour moi, tu m'as créé pourquoi? Pour t'aimer, t'adorer, oui. Mais est-ce qu'il y a une mission, un apostolat particulier? Et chacun d'entre nous, on l'a. Et je vous invite à ne pas avoir de cesse que d'avoir trouvé cet apostolat, cette mission. Et on ne la trouve pas tout seul. On la trouve dans un corps. Donc le va-et-vient de Dieu, tout ministère a une dimension apostolique, envoyée vers le monde et sacerdotale. Tu es là pour servir Dieu. En fait, servir Dieu, dans la Bible, ça veut dire adorer, prier. C'est impressionnant. Hein? Parfois, on dit serviteur de Dieu et parce qu'il fait des choses. Mais nous sommes tous serviteurs de Dieu et le premier service, c'est cette relation avec lui et cette adoration. Alors, nous sommes dans la lignée de Dieu, héritiers avec Christ, et notre vocation première, elle est céleste. On retourne dans la maison du Père. On va vivre éternellement dans cette maison. Mais cette maison, figurez-vous, elle n'est pas destinée à être dans le ciel puisque c'est une maison qui descend sur la terre. Et Dieu nous dit, ben voilà, ton héritage, c'est la terre. Et petite précision, vous savez que dans la théologie, au niveau de l'histoire de l'Église, l'histoire qu'on est fait pour être enlevé dans les airs, ça date du 19e siècle. C'est un Darby qui a le premier, il a dit, ben voilà, il y a le but de l'Église, ça va être d'être enlevé. Le but de l'Église n'est pas d'être enlevé. Le but de l'Église, c'est d'accomplir sa mission sur cette terre. Et c'est le Notre Père, que ton règne y vienne sur cette terre et que ta volonté soit faite. Donc, dans tout ministère, il y a ces deux dimensions. Où en es-tu avec ces deux dimensions? Est-ce que, si on n'est que dans l'une, je pense qu'il y a un problème. On est appelé à développer les deux dimensions, apostolique et sacerdotale, comme Jésus. Jésus, le premier apôtre, ça a été le premier apôtre. Le premier envoyé. Quand il est venu sur la terre, il s'est arraché, il a quitté la gloire, le confort, venir dans un monde de ténèbres pour donner sa vie pour ce monde-là. L'apostolat de Jésus, il est allé jusqu'à la croix. Et en fait, quand on voit Paul, l'apôtre Paul, quand on voit ce que c'est le ministère apostolique, hein, alors je fais la différence entre un ministère apostolique et une dimension apostolique. Nous sommes tous appelés à avoir une dimension apostolique. On est envoyés, vous voyez. Mais le ministère apostolique de Paul, ce n'était pas évident. Ce n'était pas la gloire. Il a dit, on nous considère souvent comme des carpettes, quoi, comme les derniers, le rebut de l'humanité. Donc, si on veut si on cherche un peu de gloriole, tout ça, il ne faut surtout pas aller dans ces dimensions-là. Voyez. Et pourtant, Dieu nous montre le chemin. Donc l'apostolat, la dimension apostolique de l'Église, c'est s'oublier pour aller. Et c'est là qu'on trouve la joie et le sens de la vie. Donc Jésus, souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait à la croix? Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il monte vers son Père et en tant que souverain sacrificateur. Il a pris tous les péchés de l'humanité, il les a apportés à Dieu, il a fait ce chemin pour nous. Et devant le trône de Dieu, il intercède. Ça, c'est impressionnant encore. C'est un des grands mystères. Jésus qui pourtant a tout accompli, il intercède auprès du Père pour nous. Ça, c'est son ministère n'a pas de fin. Et il continue. Nous avons un intercesseur, dit la Bible. Alors nous avons Huguette aussi. On a aussi le groupe d'intercession. Mais la Bible dit qu'on a un intercesseur, c'est Jésus, et il est auprès du Père. Et alors qu'est-ce qu'il fait une fois qu'est-ce qu'il fait? Il monte au Père, donc il intercède, mais qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le Saint-Esprit. Voilà encore un apôtre envoyé. Le grand apôtre aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il est envoyé pour accomplir une mission dans le cœur des croyants. Il est venu pour accomplir l'œuvre de Jésus de la croix en nous. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, voyez. Et cette œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre qui nous transforme dans nos mentalités, dans notre caractère, dans notre façon de penser, de voir les choses. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et donc, le fil conducteur de toute l'histoire, c'est « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Et ça, c'est l'Esprit qui travaille et qui le fait. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est le ministère apostolique, voyez. C'est l'apôtre qui est là. Alors, par l'Esprit, eh bien, on peut devenir ce que Jésus, il est. Il est apôtre, il est sacrificateur. On ne peut pas par nos forces, mais par l'Esprit. Et l'adoration, eh bien, cette adoration nous permet de recevoir le cœur de Dieu. Dans Acte 13, il y a un événement dans la Bible qui a tout changé, qui va changer toute l'Europe. Et ça a commencé par une petite réunion. Alors la Bible dit, alors qu'ils servaient Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient ces chrétiens? Ils adoraient, ils priaient, simplement. C'est ça, servir Dieu. Et dans cette adoration, qu'est-ce qui se passe? Ils reçoivent une parole. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, afin qu'ils annoncent ma parole. Ce n'est pas Paul et Barnabas, un jour, ils ont dit, tiens, c'est chouette, on va servir Dieu. Non, non. Ils étaient dans une communauté, l'Esprit de Dieu a parlé dans la communauté, et il a dit, envoyez-moi Paul et Barnabas. Ils sont partis, non pas envoyés par eux-mêmes, mais envoyés par une communauté. Et je dirais, ce n'est pas exact de dire par une communauté, envoyés par le Saint-Esprit qui était discerné dans une communauté. Donc qu'est-ce que ça nous montre là? C'est que l'apostolat, l'envoi, c'est toujours à la fois l'action du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit travaille toujours dans le cadre d'une communauté. Et donc tout envoi tout seul, à ses grandes limites. Et c'est pour ça que dans Acte 13, on voit le modèle de l'envoi. Alors qu'ils ne s'imaginaient même pas qu'il y aurait quelqu'un d'envoyé. Et eux, ils venaient adorer et prier. Mais alors qu'ils adoraient, le Saint-Esprit dit. Voyez. Et c'est ça, en fait. C'est quoi une réunion de prière? Une réunion d'adoration? C'est une réunion où on croit que le Saint-Esprit peut parler. Et attention, parce qu'il y a des moments, là, quand il arrive à donner ce genre de parole, c'est pas rien. Job 36, 26... Je lis, il attire à lui les gouttes d'eau. Hein, pour ceux qui ont fait les collèges, là, rappelez-vous, on va parler du cycle de l'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le cycle de l'eau. Ben, il est dans la parole, le cycle de l'eau. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler. Ils la répandent sur la foule des hommes. Ben, ça, c'est la prière. C'est-à-dire, ça fait des gouttes d'eau, la vapeur qui monte, fait des gouttes d'eau, ça fait des nuages. Et ensuite, ça fait la pluie sur les hommes. À chaque fois qu'on se réunit pour adorer, pour prier, pour louer, ça fait une vapeur qui monte, qui forme un nuage, et ce nuage descend. Donc, il ne faut jamais croire. Mais moi, parfois, on a l'impression, on dit, mais moi, je ne fais rien, je n'ai pas l'impression de faire grand-chose. Voilà, et souvent, on peut mésestimer ce qui est tellement important que l'on fait. Et quand tu adores, il y a ce cycle de l'eau qui se fait. Je l'appellerai le cycle de la louange. Le cycle de la louange, c'est la vapeur qui monte. Dans Apocalypse chapitre 8, il est dit, il y a les anges, ils sont là, ils récupèrent les parfums des prières, ça monte dans un encensoir, il met le feu et il balance le feu sur la terre et ça exerce des jugements sur les principautés de ténèbres. Ça, c'est puissant, l'adoration. Hein. Donc, parfois, les anges, ils récoltent le parfum de ta prière. Alors, parfois, tu te dis, mais moi, ça n'a rien donné. Mais c'est tous ensemble, petit à petit, on accumule ces parfums. Et les anges les accumulent et les reversent sur la terre. J'aimerais donner un autre exemple du sacerdoce avec l'envoi. Il y a un passage extraordinaire, c'est le passage d'Ésaïe, chapitre 6. Alors ça, c'est un beau texte et j'aimerais qu'on le voit ce matin. La mort, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait à la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité s'est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, etc. » Regardez ce qui se passe, un climat d'adoration. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Dans ce climat d'adoration, de sacrificature, Ésaïe se trouve là. Dans cette présence de Dieu, premier constat, il se sent sale. Et chaque fois, la présence de Dieu, il y a un premier pas où on a affaire à la saleté, à la honte, etc. Il ne faut pas qu'on reste dessus. Dieu nous dit, voilà, regardez, c'est l'action de Dieu. Il touche ses lèvres avec cette braise et il dit, voilà, ton iniquité est enlevée. À chaque début d'adoration, il faut qu'on sente que Dieu touche nos lèvres et l'iniquité est enlevée. Dans les cultes, par exemple, réformés, vous avez une liturgie. Alors nous, on n'est pas tellement liturgique, mais la liturgie a sa force aussi. Et cette force, c'est qu'il commence toujours les cultes par reconnaissance du péché, acceptation du pardon, et on rentre dans la louange. Voyez ? Et quelque part, c'est vraiment le cheminement. Parfois, nous, évangéliques, on peut rester jusqu'à la fin d'un culte avec le poids d'une culpabilité qu'on n'a pas déposée. Et on ressort d'un culte aussi chargé qu'on l'était avant. Donc c'est important. Donc Ésaïe, il est touché. Et regardez ce qui se passe. Donc, ton péché est expié. Donc il pourrait dire, ça y est, c'est super. Je suis pardonné. Je suis racheté. J'ai retrouvé la présence de Dieu. Mais ça, c'est le début. Qu'est-ce qui se passe après? Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Immédiatement. Immédiatement. Donc, sacrificature. On adore le Seigneur, on rencontre sa présence, on est touché, on est lavé, on est guéri, l'iniquité tombe, le sentiment de honte tombe, immédiatement après, apostolat, envoie. Et ça, c'est vraiment la dimension de cette croix, voyez. Viens à moi, ok, je viens, merci Seigneur, tu es tellement bon, clac, qui enverrai-je? Envoie, apostolat. Si on s'arrête à la sacrificature, c'est que quelque part, on n'a pas entendu le grand apôtre dire « Qui enverrai-je ?» Voyez. Donc ce « Qui enverrai-je ?» il est là immédiatement, Ésaïe, il dit « Me voici, envoie-moi. » Ça c'est vraiment, vous voyez, on retrouve ces deux mouvements. On retrouve dans Exode 40, verset 13, « Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Être revêtu. » La manteau de justice, être revêtu, tu es revêtu, c'est la justice, on en a parlé souvent. Et c'est Dieu ne te dit pas, serre-moi et après je t'oindrai. Dieu, c'est pas notre Dieu ça. Notre Dieu dit, viens à moi, je te revais, un, je t'oins, deux, ensuite tu peux aller servir. Souvent, on croit que c'est le mérite. Il faut que je fasse des choses pour Dieu et plus j'en fais, plus je serai oint. C'est absolument l'inverse avec Dieu. Tu vas vers Dieu, tu te laisses revêtir, tu te laisses oindre, ensuite tu vas. Ce n'est pas parce que tu fais que tu es oint. C'est parce que tu es oint que tu fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui parfois doit changer. Nous sommes oints. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus, avant d'exercer vraiment ce grand ministère, il a commencé à lire ça dans la synagogue, hein, à Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à proclamer la parole de Dieu sur sa propre vie. C'est impressionnant. Si lui l'a fait, à combien plus forte raison on est appelé à le faire ? Et j'aimerais maintenant, vous connaissez tous peut-être le film Hulk. Qui c'est qui connaît Hulk ? Hein ? Hulk, tout d'un coup, il gonfle comme ça. Il devient fort, il ravage tout. Soudainement, il brise tout, etc. Ça parle un peu de l'onction que Dieu nous donne. Nous sommes tous des Hulk. Tu as un Hulk à côté de toi, et n'aie pas peur, tout va bien. Voilà. Mais l'onction de Dieu, c'est fort quand même. C'est la même qui a ressuscité Jésus, qui est en nous. Mais j'aimerais vous parler d'une onction dont on parle un peu, mais l'onction de Hulk, c'est pas seulement cette onction qui vient du ciel. L'onction du chrétien, c'est une onction qui vient aussi du corps. La Bible dit, psaume 133, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend jusqu'au bord de ses vêtements, etc. Il y a une onction, une huile collective qui n'existe nulle part ailleurs. Combien de fois il y a des déblocages vécus dans la prière collective, dans l'adoration collective, que j'aurais jamais vécu tout seul. Il y a une onction qu'on ne peut pas imiter, qui est l'onction collective. Et la Bible, et souvent dans notre lecture des Écritures, eh bien, on a une lecture extrêmement individualiste. J'aimerais vous donner des exemples, vraiment des exemples. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a frappé, en particulier cette semaine, je l'ai partagé hier un peu au Conseil de l'Église. Regardez par exemple Philippiens 1:6. Vous connaissez tous cette promesse, écoutez ça. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Donc nous on dit, Seigneur, tu as commencé une œuvre en moi, tu la rendras parfaite. Ça c'est la traduction qu'on fait. J'aimerais vous suggérer que cette traduction est complètement partielle et partiale. Parce que le contexte des Écritures, c'est l'Église de Philippe. L'œuvre que j'ai commencée dans l'église de Philippe, je vais l'amener au bout. Et nous, on lit et on dit l'œuvre que Dieu a commencée en moi. Alors, ce n'est pas faux, mais si c'est au détriment de la vision de la collectivité, on est tombé dans un individualisme, dans un égocentrisme qui n'a rien à voir avec les Écritures. Donc quand Dieu dit ce que j'ai commencé, c'est dans le corps, dans ce corps, dans cette communauté. Et nous pouvons en tant qu'Église dire que ce que Dieu a commencé en nous, eh bien il va l'achever. Rappelez-vous, la plus grande prière que Jésus a dite, elle commence par notre Père. Elle ne dit pas mon Père, elle dit notre Père. Donc ça c'est capital, ça c'est la mentalité hébraïque, voyez. La mentalité hébraïque, c'est une mentalité communautaire. Tellement importante. Maintenant, autre passage, Philippiens 4:19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses. À tous les coups, on interprète. Mon Dieu pourvoira à mes besoins. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, ce texte, le contexte, c'est l'église de Philippe. Et l'apôtre Paul, il parle à l'église. Le Seigneur pourvoira à tous vos besoins en tant que communauté. Et nous, on a réduit. C'est ma promesse personnelle. Donc, voyez, on a le culte personnel, et c'est très bien. On a les promesses personnelles, on a les prophéties personnelles, et moi, je vous suggère qu'il y a un moment, il faut arrêter. Quand on regarde bien dans les Écritures, c'est quand même intéressant. Moi, c'est très bien les prophéties personnelles, tout ça, mais chaque fois que Dieu parle, dans tout l'Ancien Testament en particulier, même au roi, c'est toujours pour la nation. C'est toujours pour au-delà de lui-même. C'est toujours pour au-delà de soi. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand la prophétie nous exhorte, nous encourage, c'est toujours pour une perspective au-delà de soi-même. Parce que sinon, on est tellement dans le nombril, là. Voyez donc, voilà, ça c'est extraordinaire. Dieu pourvoira tous vos besoins en tant que communauté. Donc, il y a une onction communautaire. Et Dieu, quand il touche un corps, quand il envoie... Apostola, hein, apostolio, quand il envoie, c'est toujours avec une vision d'une communauté qui envoie. être envoyé. Et être envoyé par Dieu, cette dimension apostolique, elle ne se vit pas tout seul. Et les disciples, on les voit, ils sont envoyés dans le monde. Leur mission est d'aller dans le monde. Mais auparavant, ils étaient venus auprès de Jésus. Et ces 3 ans auprès de Jésus ont pu tout changer. Moi, je suis touché par, vous l'avez déjà partagé ici, mais les premiers grands missionnaires de l'histoire de l'Église, les premiers grands évangélistes. Moi, je suis quand même impressionné. Quand ils étaient touchés par Dieu, convertis donc, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans le désert. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 20 ans. L'apôtre Paul lui-même, il est allé dans le désert jusqu'à ce que Dieu le touche pleinement. Et ensuite seulement, il est allé. Et nous, on a tellement la frénésie parfois de tout de suite aller alors qu'on n'est pas venu. Et parfois, on est tellement bien en venant vers Dieu qu'on ne veut même plus sortir. Donc, ces deux dimensions, sacerdotal, apostolique, sont tellement importantes. Regardez Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, le cosmos, qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé qu'il a envoyé. Dieu a tant aimé qu'il a envoyé. Ça c'est Dieu. Hein? Ça, c'est Dieu. Il aime le monde. Et le monde, ce n'est pas seulement les gens. Mais le cosmos, c'est tout. C'est toute la culture. On pourrait traduire. Dieu a tant aimé la musique qu'il a envoyé des musiciens. Dieu a tant aimé l'économie qu'il a envoyé des économistes. Dieu a tant aimé le gouvernement qu'il a envoyé des gouverneurs. Dieu a tant aimé les arts qu'il a envoyé des artistes. C'est ça l'amour du monde de Dieu. Voyez, c'est ça l'amour. Il n'y a aucun domaine de la culture dont Christ ne puisse dire « c'est à moi ». Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie. Et c'est pour ça qu'il y a parfois des gens qui s'ennuient dans l'Église. Pourquoi? Parce que la dimension du royaume, c'est bien au-delà de l'Église. Et peut-être que ton appel, eh bien, peut-être même sûrement que la plupart d'entre nous, notre appel, ce n'est pas dans l'Église. Notre appel, il est en dehors de l'Église. Et l'Église est là pour être nourrie, fortifiée, préparée pour son appel, mais la plupart des appels et des apostolats sont bien sûr en dehors de l'Église. Et c'est pour ça que, prenons ce modèle de Jésus, je termine simplement là, il est le souverain sacrificateur, il est le grand apôtre. Et que ces deux dimensions dans notre vie personnelle et dans notre vie d'Église, on puisse la vivre. Et c'est pour ça que je veux vraiment soutenir en particulier les actions qui sont dirigées un peu vers l'extérieur. Et je pense un peu à cette vision des cours alpha qu'on aimerait démarrer en septembre. Je pense à ces cellules aussi. Vos cellules, Marguerite, Heinz, qui accueillaient des gens aussi de l'extérieur, etc. Je pense qu'il y a, au milieu de nous, il y en a qui ont vraiment le fardeau de l'extérieur. Et que Dieu nous donne encore plus ce fardeau en tant qu'Église. Voyez, je crois qu'on a bien développé l'aspect sacerdotal. Je pense que là-dessus, les progrès ont été faits, c'était bien. Mais l'aspect apostolique, maintenant, il doit être développé dans notre vie. Mais heureusement qu'on a commencé par le début. Et commencer par le début, c'est commencer par une relation avec Dieu, une relation d'intimité. Voilà simplement ce que j'avais partagé. Nous sommes une communauté d'adorateurs qui voulons servir le Seigneur, nous laisser envoyer par lui. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es grand sacrificateur et tu es le grand apôtre, Seigneur. Tu as envoyé l'Esprit pour nous oindre, pour donner une bonne nouvelle. Dans un monde qui est dans la crainte, qui est dans la désillusion, qui est dans la déception. Et Seigneur, tu as fait de nous un peuple d'espérance, Seigneur. Un peuple de foi. Un peuple qui sait d'où il vient, qui sait qui il est et qui sait où il va. Et nous croyons que nous pouvons embrasser au-delà de nous-mêmes tout ce que tu appelles. Tu es un peuple nombreux dans cette ville, Seigneur. Seigneur, ma prière, c'est que tu fortifies la dimension apostolique dans cette Église, Seigneur, cette dimension de l'envoi, cette dimension du royaume dans lequel on veut incarner ton règne. Merci, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur, dans ces deux dimensions. Fortifie chacun. Relève l'espérance de chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous disons comme Ésaïe, Seigneur, envoie-nous sur le terrain que tu as prévu pour chacun. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen.